Les podcasts du Collège de France, biologie.
Je propose qu'on, avec cette petite introduction sur les adipokines, qu'on voit quels sont les arguments pour penser qu'effectivement la péline est aussi une adipokine. C'est un problème intéressant puisque avec maintenant le travail qui a été réalisé dans le domaine, on sait que la leptine est un signal de l'état des réserves lipidiques, j'en dirai quelques mots de plus, qu'elle est augmentée au cours de l'obésité. L'adiponectine, qui a été découverte relativement récemment, stimule l'oxydation des lipides, elle est diminuée au cours de l'obésité. C'est une bonne cytokine, la leptine est une mauvaise cytokine. La résistine est une mauvaise cytokine, si je puis dire, dans cette classification des bons et des méchants. La résistine inhibe la réponse à l'insuline, elle est augmentée au cours de l'obésité. La vistatine aurait, ça c'est discuté, une action de type insulino-mimétique, mais elle a une action pro-inflammatoire, elle est augmentée au cours de l'obésité. Alors, la péline, nous allons le voir, augmente la sensibilité à l'insuline, augmente la consommation énergétique, tout cela c'est bon, et elle est augmentée au cours de l'obésité. Mais elle a aussi, en tout cas dans une étude, une possible action pro-inflammatoire et pro-athérogène, ce qui en fait une adipokine avec un point d'interrogation quant à l'effet net, bénéfique ou néfaste. Voici dans une revue récente de Galilo, dans Trends in Cardiovascular Medicine, un certain nombre de ces adipokines qui sont produites par les adipocytes, avec ici la leptine, où l'augmentation de leptine est associée à des effets détrimentaux au niveau cardiovasculaire, avec une activation du système nerveux sympathique, des effets prothrombotiques, une altération de la fonction endothéliale, une diminution de la production de NO, une hypertrophie des cellules musculaires lysvasculaires et possiblement une action donc néfaste sur le plan cardiaque, pouvant favoriser l'insuffisance cardiaque, l'athérosclérose et l'hypertension. Et si vous regardez l'adiponectine, qui au contraire aurait plutôt un effet bénéfique, de fait, lorsque l'adiponectine est abaissée, eh bien, on observe une accumulation de graisse viscérale, une hyperglycémie, une hypertension et, d'une manière générale, des signes pro-inflammatoires et un risque cardiovasculaire accru. Alors, la péline, ici, se situe donc comme une adipokine, au même titre que les autres, avec le profil que je vous ai rapidement indiqué il y a quelques instants. Alors, c'est toujours intéressant de regarder ce qui a été réalisé au cours des 10 années ou 15 années précédentes sur la leptine pour voir qu'est-ce qu'il reste à faire sur la péline. C'est en quelque sorte une feuille de route. Sur la leptine, elle est sécrétée par les adipocytes, elle est anorexigène, elle augmente clairement la dépense énergétique, elle va brûler les graisses, entre guillemets, et d'une façon directe et indirecte par l'activation du système nerveux sympathique. Elle est vasodilatatrice via la production de NO, mais elle est capable d'induire des ions superoxydes et de ce fait, elle peut être pro-athérogène. Je l'ai dit, elle est élevée dans l'obésité. Elle est pro-angiogénique. C'est d'ailleurs intéressant, j'avais fait un cours sur ce sujet il y a 3 ans. Parce que quand le tissu adipeux se développe, il lui faut des vaisseaux. Et pour que les vaisseaux se développent, il faut des molécules locales pro-angiogéniques. Et la péline est pro-angiogénique. Elle peut participer à l'expansion du tissu adipeux par cela. Et enfin, elle est associée aux maladies cardiovasculaires. Alors, si on veut partir de là, on peut se dire que la péline devrait, on devrait pouvoir progressivement répondre à quelques-unes de ces questions. Simplement pour aller un petit peu plus avant sur la leptine, je vous rappelle donc qu'elle est sécrétée par les adipocytes et que la quantité d'apéline circulante est grosso modo proportionnelle à la masse adipeuse et à la taille des cellules. Plus, d'une manière générale, les adipocytes sont grands, et plus ils fabriquent d'adipokines et de leptine. La leptine véhicule au niveau sanguin et joue sur un récepteur qui se trouve au niveau central pour l'activer. C'est un récepteur de type cytokine, et ce récepteur, dont la signalisation est très différente des récepteurs couplés aux protéines G, puisqu'il active une voie, ce qu'on appelle JAK-STAT, va augmenter le tonus sympathique, augmenter la dépense énergétique et diminuer la prise alimentaire. Donc, une action a priori bénéfique. Alors, pourquoi, en fait, dans l'obésité, tout se dérègle ? Eh bien, on pense que tout se dérègle parce qu'il y a une résistance, un certain degré de résistance à la péline, notamment au niveau central. C'est-à-dire que le taux d'apéline va augmenter, mais le fait est qu'elle va beaucoup moins agir sur, par exemple, la stimulation de l'appétit du fait d'une, entre guillemets, résistance centrale. Ce qui fait que notre individu, même s'il a un taux d'apéline relativement important, va continuer à avoir une consommation de nourriture complètement inadaptée par rapport à son stock de graisse et par rapport à son taux d'apéline circulant. Donc voilà très schématiquement ce qui est proposé à l'heure actuelle pour la leptine. Et d'autre part, l'action cardiovasculaire néfaste pour la leptine est attribuée à notamment à la génération d'espèces radicalaires de l'oxygène, donc une augmentation du stress oxydant, une augmentation du tonus sympathique, comme je l'ai dit, la possibilité de promouvoir des calcifications vasculaires, le tout aboutissant à une compliance artérielle, c'est-à-dire une distensibilité artérielle qui va être altérée. L'aorte et les gros vaisseaux vont devenir rigides, et ceci représenterait un facteur de risque cardiovasculaire, l'hyperleptinémie en soi-même. Même si il y a d'autres actions qui sont bénéfiques sur le plan cardiovasculaire de la leptine, comme la production de NO, mais s'il y a malheureusement un stress oxydant important, ce NO va être inefficace, il va être immédiatement inactivé. Et de même que l'action pro-angiogénique de la leptine serait plutôt un bénéfice, mais peut-être contrecarré par tous les autres effets néfastes de la leptine. Alors, est-ce que la leptine contrôle l'appétit ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, nous n'avons pas la réponse. Si on veut faire un parallèle leptine qui contrôle négativement la prise de nourriture, ce serait intéressant de savoir exactement ce qu'il en est de l'apéline et de la prise de nourriture. Par voie systémique, l'apéline n'a pas d'effet, mais par voie intracérébro-ventriculaire, comme je l'ai indiqué, je crois qu'on peut se dire que c'est à étudier parce qu'il y a des résultats trop contradictoires. Bien. L'apéline est le tissu adipeux. Nous allons voir que l'apéline est bel et bien formée et produite et excrétée à partir d'adipocytes. Nous verrons qu'elle joue un rôle dans le métabolisme intermédiaire. Il y a une relation apéline-insuline qui est intéressante, qui est réciproque. Nous allons voir que l'apéline, dans un modèle d'athérome expérimental assez particulier, est pro-athérogène. Et puis nous verrons les implications cliniques et thérapeutiques de cela. Donc je rappelle simplement que apéline et prise alimentaire, point d'interrogation, nous ne savons pas exactement. Ceci dit, quand même, il faut se rappeler que l'apéline a été découverte dans le tractus gastro-intestinal. La découverte du ligand initialement est une découverte des collègues japonais qui ont étudié dans la paroi gastrique un certain nombre de substances, et ils ont découvert à partir de l'estomac l'apéline. Et ultérieurement, une étude a été réalisée dans laquelle on a regardé l'expression de l'apéline qui est particulièrement importante dans l'estomac et dans le reste de l'intestin un peu moins. L'apéline se trouve exprimée dans l'épithélium glandulaire de l'estomac. Au passage, le type précis de cellules n'est pas précisé. L'épéline se trouve exprimée dans l'estomac fœtal et postnatal de façon particulièrement marqué. C'est un point important puisque au moment de la naissance, le nouveau-né doit pouvoir contrôler son alimentation. Est-ce que le fait que l'apénine se trouve particulièrement exprimée à ce moment-là joue un rôle dans le contrôle central, car l'apénine gastrique peut avoir un effet central comme d'autres peptides gastriques ont un rôle central dans le contrôle de la nourriture. Et puis l'apéline stimule la production de cholécystokinine par l'intermédiaire de récepteurs qui ont été identifiés dans des cellules entéro-endocrines qui sont capables de synthétiser de la cholécystokinine. Donc, on peut quand même dire à ce stade que, il y a encore là aussi un point d'interrogation intéressant, mais que le fait que l'apéline soit produite dans l'estomac, qu'elle puisse réguler la production de cholécystokinine, est peut-être un petit argument pour dire que, à la fois par voie périphérique et centrale, l'apéline pourrait jouer un rôle dans le contrôle de l'appétit. Je vais peut-être passer ça. Alors, dans le tissu adipeux, là, c'est vraiment le point important. L'apéline et son récepteur sont exprimés dans le tissu adipeux. Ceci a été montré à la fois dans des adipocytes isolés de souris et d'hommes, et d'autre part, dans le tissu adipeux, comme vous le savez, il existe ce qu'on appelle le stroma vasculaire, qui correspond en fait aux vaisseaux, macrophages, etc. Eh bien, l'apéline se trouve aussi exprimée dans ce stroma, donc à la fois dans les adipocytes et le stroma vasculaire. L'apéline est stimulée, la production d'apéline est stimulée durant la différenciation adipocytaire. En effet, les adipocytes que l'on peut cultiver vont progressivement être maturés d'un état de pré-adipocyte en adipocyte. Ceci peut parfaitement être récapitulé in vitro par l'adjonction d'un certain nombre de molécules, comme les glucocorticoïdes, etc., ou des agents qui stimulent des récepteurs nucléaires comme les PPAR-gamma. Et à ce moment-là, on observe, vous allez le voir, une augmentation de la production d'apéline. L'apéline est bel et bien sécrétée, c'est-à-dire qu'on la retrouve dans le milieu de culture, dans des cultures d'adipocytes isolées. Et enfin, et le point intéressant, c'est qu'il y a une régulation de cette production d'apéline dans les adipocytes, à savoir que l'insuline est capable de moduler de façon positive la production d'apéline dans les adipocytes. Donc il y a là une relation entre insuline et production d'apéline adipocytaire. Donc voilà la production d'apéline dans des adipocytes. Les adipocytes sont en fait cultivés à l'état de pré-adipocytes et puis on les stimule pour qu'ils passent à l'état différencié. Eh bien, de la même manière qu'un gène tel que l'AP2, qui est un gène de différenciation adipocytaire bien connu, ou que l'une des isoformes du PPAR, le PPAR gamma 2, sont augmentées, eh bien, le taux d'apéline, le taux d'ARN messager codant pour l'apéline, est augmenté et de façon très claire, et ceci après 2 à 3 jours de culture. D'autre part, la protéine, qui est donc codé par cet ARN messager, est produit dans le milieu de culture, de façon très nette, 24 heures après, donc différenciation adipocytaire, on observe une très nette augmentation de la production d'apéline, indiquant donc, chez l'homme, a priori, qu'une partie, en tout cas de l'apéline plasmatique, pourrait être d'origine adipocytaire. Il y a une régulation donc par l'insuline, et ceci a été observé in vitro et in vivo. In vivo, lorsque l'on traite des souris par l'insuline et que l'on étudie la production ensuite d'apéline par les adipocytes qui sont en quelque sorte prélevés ex vivo de ces souris pré-traitées, eh bien, on observe une augmentation de la production d'apéline, du messager de l'apéline. Et puis si on prend des adipocytes, cette fois-ci 3T3, qui vont produire de l'apéline et qu'on les incube en présence d'insuline, on observe aussi une augmentation de l'ARN messager codant pour la apénine, et ceci est dose dépendant pour à la fois la production d'ARN messager d'une part, et d'autre part pour la sécrétion d'apénine que l'on retrouve dans le secteur extracellulaire. Donc la conclusion, oui, l'apénine est produite, excrétée et modulée dans les adipocytes, et la modulation se fait par l'insuline. Alors, si on veut regarder les choses de façon un peu plus globale, l'étude qui a été réalisée ici par l'équipe de Vallet et de Audigier a consisté à étudier plusieurs modèles de souris, entre autres, ici, il s'agit de souris C57 Black 6, qui sont soit nourries, soit mises à jeun, soit renourries. Et il y a un parallélisme entre, d'une part, l'ARN messager de l'apénine et, d'autre part, le taux plasmatique d'insuline. En un mot, apénine et insuline se suivent, varient de façon parallèle. Évidemment, au cours du jeûne, il y a une diminution du taux d'insuline et il y a une diminution aussi du taux d'ARN messager codant pour l'apénine. Quand on prend des souris qui sont soumises à un diabète insulino-dépendant, elles sont traitées par la streptozotocine, à ce moment-là, on voit le taux d'insuline naturellement pratiquement s'effondrer et le taux d'apénine pareil. Si bien qu'il y a une corrélation que l'on peut établir quand on poule ensemble tous ces résultats entre, d'une part, le taux plasmatique d'insuline et, d'autre part, la production d'apénine que l'on peut estimer par cette variation d'ARN messager codant pour l'apénine dans le tissu adipeux. Donc, pour résumer ce point important, il y a un parallélisme des variations tissulaires d'apénine et d'insuline, une augmentation du taux d'apénine dans le tissu adipeux et le plasma qui est associé à un état d'obésité et d'hyperinsulinémie chez la souris. Mais l'un des points qui a été étudié toujours par cette équipe de Vallet et collaborateurs, ça a été de savoir si l'élévation du taux plasmatique d'apénine était strictement parallèle au fond à la masse graisseuse. Eh bien, en étudiant un modèle de souris, ils ont étudié quatre modèles d'obésité différentes de souris, et l'un des modèles est un modèle où on inactive le récepteur bêta-3 adrénergique, qui est important, comme je l'ai rapidement indiqué, dans le métabolisme et le catabolisme énergétique. Eh bien, dans ce modèle, la souris est obèse, mais le taux d'apénine est normal. Donc il y a une dissociation, et on ne peut pas dire, que, de façon aussi caricaturale, avec les seules données qu'on a là, en tout cas, que le taux d'apénine ne ferait que refléter la masse graisseuse, n'est-ce pas ? Et donc il y a une régulation de l'apénine par l'état nutritionnel, comme je l'ai indiqué. Qu'en est-il au niveau pancréatique ? Eh bien, est-ce que l'apénine pourrait, en retour, moduler le taux d'insuline? Il semble que oui, dans une. Et d'autre part, est-ce que l'apénine pourrait jouer un rôle sur, au fond, l'état d'insulinémie que l'on observe dans différentes conditions physiologiques ou pathologiques? Eh bien, il semble que oui. D'abord, l'ARN messager codant pour le récepteur de l'apénine a été trouvé dans les îlots de pancréas, et donc. Vraisemblablement dans les cellules bêta de ces îlots, mais ça n'a pas été montré. Donc, je parle simplement d'îlots, ils n'ont pas de cellules bêta. Mais ce qui est montré, c'est que in vitro et in vivo, l'apéline régule la production d'insuline. Et cette régulation est négative, c'est-à-dire qu'il y a une inhibition in vivo et in vitro de la production d'insuline, par l'apéline, en réponse à une charge en glucose. Et donc, de la même manière que l'insuline régule positivement la production d'apénine, l'apénine régule négativement, semble-t-il, la production d'insuline. Alors, les expériences sont limitées. Il y a quelques études dans la littérature et qui valent la peine d'être poursuivies, bien sûr. Ainsi, si on administre par voie intraveineuse 1 g par kilogramme de glucose chez la souris, en présence ou non d'apelline 36, c'est une injection unique, donc une expérience qui est limitée, on observe une baisse du taux d'insuline lorsque le glucose est associé à l'apelline. L'administration brutale de glucose entraîne naturellement un pic d'hyperinsuline, d'augmentation de la production d'insuline, et vous voyez que ce pic est diminué d'un tiers au moins lorsque la souris reçoit en même temps de l'apelline. Lorsque l'on fait cette expérience chez une souris qui a été mise à un régime riche en graisse pendant 8 mois, on voit à ce moment-là que la même administration de glucose entraîne une augmentation de l'insulinémique, mais qui est plus modeste, qui persiste longtemps. Il y a une résistance à l'insuline et une atténuation du pic d'insuline. Et lorsque l'on co-administre de l'apelline, eh bien, l'élévation de l'insuline est réduite et il y a un retour plus rapide de l'insulinémie vers des valeurs antérieures. In vitro, pratiquement pas d'argument pour l'instant, je dirais, très, très étayé. Il y a une expérience qui semblerait montrer que lorsque l'on prend des îlots pancréatiques à partir de souris normales, C57 Black 6, et que l'on met ces îlots en présence de glucose, il y a une production d'insuline, bien entendu, et lorsque on met une quantité relativement importante d'apelline, 36, 1 micromol, c'est beaucoup, hein, eh bien, on observe une diminution de la production d'insuline par les îlots. Mais à dose plus faible, on n'observe aucun effet, et il faut une concentration importante de glucose, 16,7 millimolaires, pour observer cet effet. Donc, il est vraisemblable, mais enfin, ceci reste à documenter, qu'il y aurait une action in vitro, là aussi directe, de l'apelline sur la production d'insuline, dont le mécanisme d'action, sans rentrer dans le détail, n'est pas connu. Donc, en un mot, on aura une autre façon extrêmement simplifiée, on aura une autorégulation, en quelque sorte, pas une autorégulation, une régulation croisée, pardon, de l'insuline et de l'apelline par un effet qui pourrait être un effet direct, à savoir que l'insuline augmente la production d'apelline par les adipocytes et que l'augmentation de l'apelline adipocytaire pourrait avoir en retour un effet négatif sur la production d'insuline. Je soumets cela à une critique dans la mesure où, encore une fois, je rapporte les études qui ont été jusqu'à présent réalisées et qui sont limitées. Une étude récente qui est je dirais, qui a l'avantage de voir les choses de façon plus systémique est celle rapportée par Iguchi dans Endocrinology l'année dernière. C'est les résultats d'un traitement court de 15 jours par l'apelline 13 sur différents paramètres métaboliques. Ils ont regardé quel pourrait être l'effet de l'administration de cette apelline par voie intrapéritonéale sur les critères que nous avons repérés comme importants pour faire de l'apelline une adipokine, prise de nourriture et de poids, tissu adipeux blanc, paramètres métaboliques plasmatiques, dépenses énergétiques, et puis ils ont regardé aussi un paramètre indirect de la dépense énergétique. Chez le rongeur, en effet, la dépense énergétique est faite à la fois, ou le métabolisme énergétique est faite à la fois du tissu adipeux blanc, mais aussi et surtout du tissu brun. Chez l'homme, il y a peu de tissu brun, mais chez le rongeur, il existe un tissu brun qui va dissiper sous forme de chaleur de l'énergie par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des protéines découplantes, UCP, et ils ont étudié l'effet de l'apelline sur deux de ces protéines découplantes. D'une part, à l'UCP1 qui est produit dans le tissu brun, qui va donc dissiper, encore une fois, sous forme de chaleur les stocks lipidiques. Et d'autre part, l'UCP3 qui va favoriser les flux de cholestérol et que l'on trouve essentiellement dans le muscle squelettique. Alors, les résultats sont les suivants. L'administration d'apelline pendant 2 semaines entraîne une variation de poids, alors que la souris, durant les 2 semaines, prend du poids lorsqu'elle est traitée par une solution contrôle en intrapéritonéale, eh bien, la souris qui est traitée par la péline ne prend pas de poids. Elle ne perd pas de poids, mais elle ne prend pas de poids. Donc, il y a une différence entre les normales et les souris traitées par la péline. Et entre autres, on observe aussi, quand on regarde le contenu en tissu adipeux blanc de l'épididyme, du mésentère, dans la région rétropéritonéale, eh bien, on observe une diminution très nette de la teneur en tissu adipeux blanc lors du traitement par la péline. Et d'autre part, le taux de triglycérides tissulaires dans le tissu adipeux blanc épididymaire est abaissé. Donc, il y a, par traitement par la péline, un effet sur l'adiposité, si je puis dire, qui est un effet négatif, direct, de la péline a priori. Si on regarde les paramètres sanguins, on ne voit aucun effet sur la glycémie et les acides gras plasmatiques. En revanche, on observe l'effet de diminution de taux d'insuline plasmatique que je vous ai déjà décrit, donc c'est un effet que l'on pouvait attendre, et on observe aussi une diminution des taux de triglycérides. Alors ça, c'est un point intéressant, il n'est pas rapporté par ailleurs dans la littérature, mais au fond, on peut se dire qu'il y a une diminution de la masse adipeuse, une diminution du taux de triglycérides tissulaires, comme je viens d'indiquer. Ceci est à mettre en rapport donc avec cette baisse du taux de triglycérides plasmatiques. Alors, il existe aussi, semble-t-il, une augmentation de la sensibilité à l'insuline in vivo. Dans cette étude, les auteurs ont fait une charge en glucose. Cette charge en glucose va entraîner une augmentation de la glycémie. Et quand on fait la même charge en glucose chez les animaux traités par la péline, on observe une diminution de l'élévation de la glycémie. C'est au fond ce qu'on peut considérer comme une amélioration du test de tolérance aux glucides, à savoir une discrète amélioration. Ceci nécessiterait réellement, bien sûr, d'être étudié de façon plus détaillée. Il y a d'autres manières que l'on pourrait utiliser pour étudier ce phénomène, ce qu'on appelle le clan glycémique, par exemple, pour voir quelle est la quantité d'insuline qu'il faut perfuser pour assurer un certain taux de glycémie dans une situation A versus une situation B. C'est une manière classique d'étudier ce que l'on appelle la résistance à l'insuline. Plus l'animal sera résistant à l'insuline ou plus il sera sensible à l'insuline et plus, dans le cas d'une résistance, il faudra administrer de l'insuline pour pouvoir obtenir un niveau constant de glycémie. Donc, c'est un point, évidemment, à mon avis, à faire avec ces premiers résultats qui sont en faveur d'une amélioration de la sensibilité à l'insuline sous l'effet de la péline. Un des points importants qu'on a vu pour ces adipokines, c'est de savoir si elles augmentent ou elles sont sans effet ou elles diminuent la consommation énergétique. Il y a plusieurs éléments en faveur d'une augmentation de la dépense énergétique liée à l'administration de la péline chez la souris. D'une part, mais c'est très indirect, une augmentation de ces fameuses protéines découplantes dont je vous ai parlé dans le tissu adipeux brun, dans le muscle squelettique, en sachant bien qu'il s'agit d'ARN messager modulé par la péline, et donc c'est un point et que ceci nécessite plus. Ce qui est peut-être plus intéressant, je trouve en tout cas, sont les index, les indicateurs globaux de dépenses énergétiques, que sont d'une part la température corporelle, plus on augmente sa température, plus on dissipe de l'énergie. La péline aurait un effet assez net sur l'augmentation de la température corporelle, on le voit ici. Mais la péline augmente aussi la consommation d'oxygène, ça c'est un bon index de consommation énergétique, et baisse le coefficient respiratoire. Donc là, on a une série d'arguments qui sont assez cohérents, je dirais, en faveur d'une augmentation de la dépense énergétique liées à la péline. Alors, il est intéressant de voir que ces adipokines peuvent se moduler les unes vis-à-vis des autres. Et donc, notons que dans cette étude, encore une fois limitée, mais intéressante en termes de pistes d'études ultérieures, sous traitement par apéline, on observe une baisse du taux de leptine. Alors, est-ce un effet direct? Est-ce un effet du fait de la diminution de la masse graisseuse? C'est aussi une autre possibilité, bien sûr, puisque je voulais indiquer qu'il y avait une baisse du tissu adipeux blanc. Et puis, en revanche, on voit en parallèle et en miroir une élévation du taux d'hyponectine, ce qui est bénéfique. Donc là, vous avez un exemple typique d'effet bénéfique coordonné, l'apéline et, a priori, une sympathique adipokine. Si je veux résumer cela, je dirais que le traitement par l'apéline n'a pas d'effet sur la prise de nourriture, mais encore une fois, il s'agit d'une apéline administrée par voie systémique. Elle baisse le poids, en tout cas, elle supprime la prise de poids observée naturellement. Elle baisse le poids du tissu adipeux blanc. Elle baisse le taux d'insuline et les triglycérides plasmatiques et tissulaires. Elle stimule les protéines découplantes, UCP1 et UCP3. Elle augmente la dépense énergétique. Et d'autre part, ces effets sont retrouvés chez une souris obèse simplement l'administration d'un régime riche en graisse et non pas d'un modèle génétique. Donc, on pourrait dire à ce stade que l'apéline à dose pharmacologique régule le métabolisme énergétique de façon intéressante, elle augmente la dépense énergétique et elle accroît la sensibilité à l'insuline, et ceci pourrait s'observer chez la souris normale et obèse. Alors, ceci ferait de l'apéline, finalement, une molécule, encore une fois, intéressante, mais il y a un travail qui a été publié il y a quelques semaines et qui remet un petit peu en cause cette vue simplificatrice des choses, qui est une possibilité que l'apéline pourrait jouer un rôle pro-inflammatoire, pro-athéromateuse. Alors, l'étude qui a été publiée par Hashimoto et collaborateurs de l'American Journal of Pathology avait pour départ l'idée que l'apéline joue indiscutablement un effet sur les cellules musculaires lisses vasculaires. D'abord, le récepteur de l'apéline se trouve exprimé clairement dans les cellules musculaires lisses vasculaires, notamment de l'aorte et de l'artère pulmonaire de rat. Et que d'autre part, ces auteurs et d'autres avaient montré qu'il y avait un effet direct de l'apéline sur ces cellules musculaires lisses vasculaires. D'abord, ces cellules musculaires lisses se vasoconstrictent sous l'effet de l'apéline. D'ailleurs, je vous avais rapporté que les veines saphènes isolées sans endothélium, donc dénuées de la possibilité de vasodilatation induite par le NO, eh bien, la saphène se vasoconstricte en présence de l'apéline. C'est le fait d'un effet vasoconstricteur direct de l'apéline sur les cellules musculaires lisses vasculaires. Et d'autre part, sur le plan biochimique, on peut voir que l'apéline stimule la phosphorylation de la chaîne légère de la myosine. Donc, finalement, ceci leur a fait penser qu'après tout, il pourrait y avoir un rôle de l'apéline, comme d'ailleurs d'autres adipokines, sur l'athérome provoqué. Et donc, ils ont étudié le modèle expérimental très classique de la souris dont le gène de l'APOE a été inactivé. Ces souris, soit spontanément, soit plus facilement encore en présence d'un régime hypercholestérolémique, développent un athérome que l'on considère, avec des guillemets, comme proche de l'athérome humain. Encore que cet athérome ne s'accompagne pas, notamment, de tous les phénomènes thromboemboliques de l'athérome chez l'homme. C'est un athérome, je dirais, qui est impressionnant sur le plan des images, mais qui ne résume pas complètement, tant s'en faut, l'athérome humain. ils ont étudié l'effet de l'inactivation de l'apénine en utilisant, comme il n'y a pas d'inhibiteur de l'apénine, ils ont utilisé des souris KO pour le récepteur de l'apénine. Et donc, ils ont croisé ces souris qui font de l'hypercholestérolémie parce qu'elles n'ont plus le gène ApoE avec des souris qui n'ont plus le récepteur de l'apénine. Et ils ont regardé. Ils ont regardé après environ 20 semaines ce qui se passait. Alors, il y a quatre, je ne vais pas tout vous résumer parce qu'il y a naturellement quatre groupes de souris. Les souris sauvages, les souris sans gène avec l'apéline, le récepteur de l'apéline supprimé. Et ce qui nous intéresse essentiellement, en fait, ce sont les souris où le gène de l'ApoE a été supprimé, mais où l'apéline est efficace parce que son récepteur est présent. Et d'autre part, les souris ApoE moins, hypercholestérolémiques et avec athérome, et chez qui le gène du récepteur de l'apéline a été supprimé. Donc l'apéline n'est plus efficace. Alors, ce qui est indiqué dans cette étude, c'est que les souris hypercholestérolémiques, mais dont le récepteur de l'apéline est là, et qui ont donc un système apéline normal, développent, comme attendu, des lésions particulièrement impressionnante, notamment au niveau des sinus aortiques. C'est là qu'apparaissent les premières lésions et c'est là que, traditionnellement, on quantifie ces lésions. D'autre part, les souris dont le gène de l'apénine, du récepteur de l'apénine a été inactivé, ont été étudiées et là, il y a beaucoup moins de lésions. Et quand on considère, si vous voulez, les lésions et les surfaces de ces lésions, il y a une diminution nette de l'importance de ces lésions lorsque le système apéline est inactivé. Alors, on pourrait penser qu'il y a un effet du fait de la suppression de l'apéline sur un certain nombre de paramètres, et notamment, naturellement, le taux de cholestérol. Eh bien, non. La suppression du récepteur de l'apéline ne modifie pas les lipides plasmatiques de ces souris. Donc, ce n'est pas un effet qui est médié par des modifications des lipides plasmatiques, autant qu'on puisse le voir. C'est quelque chose qui est plus complexe. Alors, voici aussi des lésions qui sont marquées de façon spectaculaire sur cette aorte, avec ce rouge soudain de ces dépôts lipidiques sur tout l'ensemble de l'âme aortique lorsque les souris sont hypercholestérolémiques du fait de la suppression du gène de l'ApoE. Mais quand ces souris ont en outre la suppression du récepteur de l'apénine, les lésions sont beaucoup moins importantes, donc une deuxième quantification qui va en faveur, au fond, d'un rôle néfaste de l'apénine et d'un rôle protecteur de la suppression de l'apénine. Alors, qu'est-ce qui peut être proposé? Nos auteurs, nos Japonais proposent qu'il y a une augmentation du stress oxydant sous l'effet de la suppression de l'apénine. En effet, ce que l'on sait, c'est que l'enzyme NADH, NADPH oxydase va transférer un électron de l'oxygène moléculaire provenant de NADH, NADPH, pour former un anion superoxyde. Cet anion superoxyde va réagir avec de l'eau pour donner de l'eau oxygénée, sous l'effet notamment de la superoxyde dismutase, et ensuite ceci va être éliminé sous l'effet de catalase ou de peroxydase. L'hypothèse de travail, c'était que finalement, en l'absence d'apéline ou de système apéline efficace, eh bien, il pourrait y avoir une activation du complexe NADH-NADPH oxydase, avec notamment une activation par l'intermédiaire de protéines qui vont activer cette enzyme, cette oxydase, comme P47-FOX ou RAC1, qui sont des activateurs du complexe enzymatique et donc qui vont accélérer la formation d'anions superoxyde dont on connaît les effets délétères sur la paroi. Ils vont en même temps, comme je l'ai dit à l'instant, ils vont en même temps inactiver le monoxyde d'azote et donc favoriser l'oxydation des lipides, oxydation de protéines, et donc un effet tout à fait négatif délétère sur la paroi. Leur hypothèse de travail est donc qu'il y avait une augmentation du superoxyde vasculaire chez une souris APOE moins, d'une façon générale, mais que ceci était accentué par la suppression du gène du récepteur de la apéline. Au fond, une accentuation des lésions. Alors, je ne rentre pas dans les détails de toutes les expériences qui ont été réalisées, mais simplement pour montrer l'une d'entre elles, à savoir une étude ex vivo. Ils ont pris des cellules musculaires lisses vasculaires d'aorte de souris de 20 semaines et ils ont étudié la production dans ces cellules musculaires lisses vasculaires la production de superoxyde. Lorsque ces aortes sont isolées à partir de souris qui sont simplement dépourvues de l'APOE, mais qui ont le récepteur de l'apéline, il y a une certaine production, eh bien, cette production de superoxyde est diminuée lorsque l'on prend des cellules musculaires lisses vasculaires qui proviennent de souris dont le récepteur est inactivé. Alors, ils n'ont pas fait l'expérience qui vaudrait la peine d'être faite, qui serait de rajouter, évidemment, de l'apéline pour voir si on va stimuler la production d'ion superoxyde. En revanche, ce qu'ils ont étudié, c'est les propriétés mitogéniques de ces cellules musculaires lisses vasculaires qui sont issues de ces différentes souris. Et l'ion superoxyde a un effet mitogénique délétère sur la prolifération des cellules musculaires lisses vasculaires. Eh bien, cet effet mitogénique est accru chez les souris dont le gène de l'APOE a été supprimé. Donc, autrement dit, l'hypothèse, au fond, d'une aggravation des effets de l'ion superoxyde, des espèces radicalaires de l'oxygène, induit déjà par la suppression de l'APOE, eh bien, se conforte, c'est-à-dire qu'au fond, un système apéline protège, en quelque sorte, les cellules musculaires lisses vasculaires contre ce stress oxydatif. Et là, encore une autre type d'expérience, cette fois-ci par une coloration immunohistochimique, où on peut regarder l'effet des ions superoxyde sur les fibres musculaires lisses vasculaires lorsque l'on traite ces in vitro, bien sûr, en immunohistochimie, ces cellules avec de la nitrotyrosine, qui est une manière de... C'est une réaction chimique en chaîne qui permet de montrer l'existence importante d'anions superoxyde dans ces fibres musculaires lisses vasculaires. La coloration est bien moins intense lorsque les animaux n'ont pas de système apéline efficace. Donc, pour nous résumer, je dirais que il n'y a pas d'effet de l'absence de récepteurs sur les lipides circulants. Il s'agit de l'HDL, cholestérol, du LDL, cholestérol, des triglycérides, etc. Mais que l'absence de système apéline efficace réduit les lésions d'athérosclérose chez les animaux soumis donc à un régime riche en graisse et à cette agression que représente la suppression du gène de l'APOE. Que ceci pourrait être lié à la réduction de radicaux superoxydes chez les animaux dont le gène de l'apéline est absent. Et donc, ils vont jusqu'au bout des choses, ils vont jusqu'à dire qu'après tout, ce serait bien chez des gens athéromateux ou à risque athéromateux de donner non pas un agoniste, mais de donner un antagoniste, puisqu'on va résumer en quelque sorte, on pourrait bloquer ainsi la formation de radicaux libres dans la paroi des artères chez des patients particulièrement exposés. Alors, ceci est important parce que c'est absolument à l'envers de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je vous ai dit un effet agoniste serait bon pour l'état de raison, et là, ce type d'expérience qui est unique, est à l'envers. Alors évidemment, ce serait intéressant de regarder ce qui se passe chez les animaux dont le gène de la pénine a été inactivé. Comme je vous l'ai rapporté récemment, Pettinger et son groupe ont généré des souris dont le gène de la pénine, et non pas le récepteur, a été inactivé. Ces animaux, comme je vous l'ai indiqué, ont une contractilité cardiaque qui est altérée à 6 mois et ils supportent mal une post-charge importante, par exemple par bandage aortique. Donc il serait intéressant de faire la même expérience, le même croisement qui doit peut-être d'ailleurs, à mon avis, être en train d'être fait, pour voir si on reproduit cela. Si on reproduit cela avec à la fois le gène du récepteur et le gène de la pénine lui-même, je pense que ce seront des arguments importants à considérer. Donc, la pénine a un rôle délétère, dit-il plutôt, dans le stress oxydatif et pourrait être un facteur critique dans cette athérogenèse induite par l'hypercholestérolémie. Alors, qu'en est-il chez l'homme ? Chez l'homme, inutile de vous dire, on a très peu de résultats. On sait, je l'ai dit, que la pénine se trouve exprimée dans les adipocytes et le stroma vasculaire, les adipocytes et le stroma vasculaire humain. Il y a des arguments pour penser qu'il y a des élévations des taux d'apéline chez les patients obèses avec hyperinsulinémie. Il y a 2 études que je vais très rapidement vous montrer. Donc, un petit peu comme pour la leptine, obésité, augmentation de l'apéline. Et on peut se poser la question de savoir si l'élévation du taux d'apéline est une réponse adaptative ou au contraire mal adaptative aux anomalies liées à l'obésité. Et donc, ceci reste complètement encore en question. En un mot, donc, augmentation des taux plasmatiques chez les obèses, mais il s'agit finalement de peu de nombre de sujets. L'obésité, c'est évidemment une maladie multifactorielle et il faudrait faire certainement beaucoup plus pour pouvoir en être certain. Il y a une petite étude qui a été réalisée, là encore, sur un petit nombre d'obèses, 32, c'est pas beaucoup quand même, mais il y a une corrélation entre, d'une part, le taux d'apéline et, d'autre part, l'index de masse corporelle chez ces obèses qui étaient étudiés en vue d'une chirurgie bariatrique et donc qui avaient une obésité, je dirais, caricaturale. Voilà. Donc, pour résumer au fond les actions de la pénine, avec cette vue un petit peu sur les adipocytes, on pourrait dire que peu d'adipocytes, peu d'apénine circulante, augmentation de la masse adipocytaire, vraisemblablement augmentation du taux d'apénine, avec d'autre part une action centrale sur la libération de vasopressine qui est inhibée, peut-être une modulation de la prise de nourriture, une action inotrope positive, une baisse de la pression artérielle, et d'autre part, une inhibition de la libération d'insuline. On en reste à peu près là au jour d'aujourd'hui. Alors, si on veut résumer, on peut dire que l'apéline est effectivement une adipokine. Elle est sécrétée par les adipocytes. Peut-être joue-t-elle un rôle dans la prise de nourriture. Elle augmente la dépense énergétique. Elle a un rôle dans le métabolisme intermédiaire. Elle est vasodilatatrice, mais elle pourrait être productrice d'ions superoxydes et protéogènes. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elle a une action mitogène sur les cellules musculaires et vasculaires. Elle est élevée dans l'obésité humaine. Elle est angiogénique, je ne reviens pas sur ce que je vous ai montré antérieurement. Et elle joue peut-être un rôle dans les maladies cardiovasculaires. En tout cas, elle varie, son taux plasmatique varie dans ces maladies. Et si vous regardez la leptine, tous les premiers items sont les mêmes, finalement. Sécrétée par les adipocytes, elle baisse la prise de nourriture, elle augmente la dépense énergétique, elle joue un rôle dans le métabolisme intermédiaire. Elle est vasodilatatrice par la production de NO. Elle produit aussi des ions superoxydes. Elle est pro-inflammatoire et pro-hétérogène. Elle est bien sûr élevée dans l'obésité. Là, il y a une résistance au passage à la leptine. Elle est angiogénique. Elle joue un rôle vraisemblable dans les maladies cardiovasculaires. Et en plus, elle a un rôle important dans le système immunitaire, rôle qui, pour l'instant, n'est pas connu ou étudié, à ma connaissance en tout cas, pour la pénine. Si on veut avoir une vue d'ensemble, on pourrait dire que L'apéline a un rôle quand même unique dans tout cela, à savoir qu'elle joue un rôle dans le développement cardiovasculaire, chez certaines espèces en tout cas, qu'elle a des effets bénéfiques, là j'insiste sur les effets bénéfiques, cardiovasculaires, diurétiques, métaboliques, encore que ceci serait à démontrer, peut-être un effet néfaste pro-hétérogène. Elle a un effet anti-angiotensine 2, c'est vrai, pas vrai, j'en dirai juste un mot pour terminer. Et puis, la vraie question, c'est, l'apéline est élevée dans la science cardiaque, en tout cas au début, et dans l'obésité. Mais s'agit-il d'un marqueur ou a-t-elle un rôle causal? C'est la vraie question. Et tant que nous n'aurons pas d'agoniste et d'antagoniste, nous ne pourrons pas bien répondre. Donc il y a des questions à résoudre. Il y en a tellement que je ne vais pas toutes les indiquer, mais je trouve qu'il y a très peu d'études de physiologie sur l'expression du gène ou des fragments spécifiques de l'apéline. Tout reste à faire. Par exemple, est-ce que nous avons une expression distincte, différentielle dans les tissus de ces différents fragments d'apéline? Est-ce que ces différents fragments d'apéline contribuent à l'apéline circulante, celle qui se trouve dans les liquides biologiques? D'ailleurs, quelle est l'origine de l'apéline plasmatique? Je pense vous avoir montré brièvement durant la première heure de ce cours que l'apéline plasmatique est en partie d'origine centrale, en tout cas les variations durant les phénomènes d'osmorégulation sont réellement très en faveur d'une origine de l'apéline centrale, comme la vasopressine, bien entendu, mais rien n'exclut une origine gastrique, une origine adipocytaire aussi dans cette apéline plasmatique, dans d'autres circonstances. Comment se fait la dégradation, l'excrétion des différents fragments d'apéline? Quelle est leur demi-vie? Quelles sont les voies urinaires ou autres de métabolisme? Nous ne le savons pas. Et c'est important parce que tout le monde parle de faire des agonistes ou des antagonistes, mais on pourrait imaginer d'inhiber la dégradation enzymatique de ces fragments de façon à potentialiser l'apéline ou certains de ces fragments. Mais comme nous ne savons pas, nous ne pouvons pas évidemment imaginer des inhibiteurs particuliers. Donc quel est le rôle de ces différents fragments? Est-ce qu'ils sont tous... Oui, ils sont tous affins pour le récepteur. Mais l'équipe de Catherine Lorenz a montré particulièrement, par exemple, que l'un des fragments, le 17, était le plus efficace en matière, vraisemblablement, de baisse de pression artérielle, d'internalisation du récepteur. Que font les fragments qui sont hydrolysés en C-terminal? Nous ne le savons pas bien. Or, c'est important parce qu'ils sont notamment catabolisés par l'isoforme de la CE qu'on appelle la CE2. Et donc, là aussi, c'est important. Si on veut faire des agonistes ou des inhibiteurs du récepteur, il faut savoir si tous ces fragments ont le même type d'action sur les récepteurs. Alors, je terminerai en disant simplement que si vous regardez le système renine-angiotensine, qui est étudié depuis, mon Dieu, tellement de temps et que nous connaissons bien ici, vous avez un système où vous avez un fragment, l'octapeptide, l'angiotensine 2, un récepteur, le récepteur de l'angiotensine, AT1, avec un effet qui a tout de suite été découvert, vasoconstricteur et antinatriurétique. Mais au fur et à mesure des années, et ça s'est construit en l'espace, je peux le dire, moi qui ai vraiment suivi le sujet, 30 à 40 ans, pour montrer un deuxième récepteur, l'ATE2, qui est à l'inverse du récepteur AT1, il est vasodilatateur et natriurétique. Même pour le récepteur AT1, on a trouvé des tas de fonctions qui n'existaient pas, qui n'étaient pas démontrées il y a seulement 10, 15, 20 ans, ou même quelques années. Action pro-inflammatoire. Alors là, on sait bien que l'enjeu 2 favorise la production de radicaux libres. Pro-fibrotique, pro-athéroscléreux. Action sur cardiaque, c'est certes un inotrope positif, mais clairement, l'enjeu 2 a un effet d'hypertrophie cardiaque. L'angiotensine 2 est pro-angiogénique. Et puis, il y a encore un autre fragment qui a été découvert, qui est l'angiotensine 1-7, qui est produite à partir de cette isoforme de l'ACE, et dont on dit que, on dit parce que je suis prudent là, qu'il y aura un autre récepteur couplé aux protéines G, qu'on appelle le récepteur MAS, et dont l'activation serait assez similaire à celle de l'activation du récepteur AT2, à savoir vasodilatatrice et natriurétique. Regardez, on sait trois fois rien sur la Pénine au jour d'aujourd'hui. On connaît l'existence de ces trois fragments, 36, 17, 13. On sait qu'ils sont vasodilatateurs et diurétiques, je vous l'ai montré. On sait aussi qu'ils sont ils ont un effet inotrope positif et proangiogénique, mais il y a des tas de points d'interrogation que vous pouvez imaginer sur les fonctions de l'angiotensine 2. Le même ACE2 agit sur, en tout cas, la pénine 17, 13, peut-être 36, et les peptides qui suivent sont certainement à un moment donné inactivés, mais nous ne savons pas quand. Et donc, vous voyez que de parler d'antagonisme entre ce système renine et le système apénine, ça allait vite en besogne. C'est tellement allé vite en besogne d'ailleurs que si vous regardez bien ces deux systèmes, vous avez des signalisations communes entre l'angiotensine 2 et l'apénine. Par exemple, sur le cœur, angio 2 et apénine ont un effet inotrope positif. Et par des voies de signalisation qui mettent en jeu des protéines G différentes, peuvent aboutir à, je ne rentre pas dans le détail, une augmentation de la sensibilité au calcium. Sur les vaisseaux, l'apénine est vasodilatatrice, mais c'est grâce à l'endothélium et grâce à la présence de récepteurs endothéliaux et à leur importance, vraisemblablement. Mais directement sur les cellules musculaires et vasculaires, angio 2 et apénine sont toutes les deux vasoconstrictrices via notamment la phosphorylation de la chaîne légère de la myosine. Donc je terminerai en disant simplement qu'il ne faut pas être simpliste. On peut d'un côté avoir un système qui a été utilisé pendant 30 ans, avoir une vue à peu près cohérente, être certain que c'est bon de prendre des inhibiteurs du système renine-angiotensine quand on atteint un certain âge, surtout si on a la malchance d'être un homme, mais puisque les hommes sont plus, c'est bien connu, à risque que les femmes. Mais pour ce qui est du système apénine, on est bien loin de savoir ce qu'il en est. Je trouve que c'est un système passionnant qui explique pourquoi je vous ai tenu presque en haleine, j'ai l'impression, pendant 6 heures, et qui vous explique aussi pourquoi je remets à une autre année adrénoméduline, qui est un peptide passionnant aussi, et urotensine, pour lequel il y a tant à découvrir aussi. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.